Azincourt, par temps de pluie. C'est le dernier Jean Tellet, paru aux éditions Mial et Barreau. Un livre, une nouvelle fois, tiré d'un contexte historique. La bataille d'Azincourt. Nous sommes en 1415, quand les Anglais ont infligé aux troupes françaises une cuisante déculottée, une belle raclée, aussi ridicule qu'humiliante, tellement la victoire française semblait acquise. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour Eric.
Le ridicule dans cette histoire, c'est bien la suffisance, l'arrogance des Français.
Ah mais c'est vraiment ça, la bataille d'Azincourt, c'est la bataille la plus conne de l'histoire de l'humanité. C'est une bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il n'y avait aucune raison de la faire. Il n'y avait rien à gagner. Et c'est les Français qui ont décidé ça. En fait, ce qui se passait, c'est que le roi de France Charles VI, qui était surnommé Charles le Fol, et il croyait qu'il était fabriqué en verre. Alors il se recouvrait d'attelle en bois pour pas qu'on interdisait qu'on le touche, de crainte qu'on le brise. Et le vendredi 25 octobre 1415, c'est toute son armée qui a volé en éclats. Et en fait, le contexte, c'est que Henri V, jeune roi d'Angleterre, apprenant que le roi de France était fou, décide d'envahir la France. Il dit c'est le bon moment. Et il veut arriver en Normandie. Il arrive d'ailleurs en Normandie. Il veut remonter la Seine. Il veut prendre Paris et prendre la France. Mais d'abord, il veut prendre une petite ville fortifiée qui s'appelle Harfleur, et il n'arrive pas à la prendre. Et plein de soldats sont malades, meurent parce que
ils ont mangé des moules
et tout ça. Et voilà. Et puis Henri V, presque deux mois après avoir attaqué la France, décide d'abandonner, de remonter vite fait le long de la côte avec son armée et d'aller à Calais, qui était une ville anglaise,
et de rentrer chez eux.
Et les Français, qui pendant deux mois laissent les Anglais vouloir envahir la France sans aucun problème, ils en ont rien à foutre. Au moment où les Anglais partent et veulent que rentrer chez eux, l'armée française, la plus grande armée qu'on ait vue dans une bataille au Moyen-Âge pendant la guerre de 100 ans, part à leur chasse, passe par l'Est, vont plus au Nord, redescendent sur eux et leur barre la route à 70 km au sud de Calais en disant « Vous n'irez pas plus loin ».
Ça semblait acquis.
Et voilà, ils étaient 30 000 hommes, les Français tous armés jusqu'aux dents, en pleine forme et tout. Les Anglais, effectivement, tout, comme vous le disiez, en traversant la baie de la Somme, ramassent des moules parce qu'ils n'avaient rien à manger. Manque de peau, les moules n'étaient pas fraîches. Ils se chopent une épidémie foudroyante de dysenterie, 2000 morts. Et puis, en fait, c'est les Français qui vont se faire mais exploser. Toute la chevalerie française va mourir.
Oui, par péché d'orgueil d'ailleurs, parce que les nobles étaient en première ligne.
Mais oui, alors que normalement, dans une bataille, on met ce qu'on appelle les gens de trait devant, c'est-à-dire les archers, les arbalétriers et tout. En plus, les Français avaient aussi des canons et ils auraient mis les arbalétriers devant et les canons. En un quart d'heure, c'était réglé. Mais tous les nobles étaient tellement sûrs de la victoire qu'ils ont dit, mais on va pas laisser la victoire à des ouvriers, c'est nous qui allons être devant. Ils étaient tassés les uns contre les autres parce qu'ils voulaient tous être en première ligne et ça allait être une cata totale.
Une bataille relativement courte, hein, quelques heures.
3 heures.
3 heures de bataille.
3 heures, 10 000 morts. Pas une arme à feu, hein.
À l'épée,
tout à la ferraille,
à la hache, au bourdin, ça a été une vraie boucherie.
Hein. Ah mais oui, mais ils ont laminé et complètement laminé. Et ce qui est curieux, c'est que le vendredi 25 octobre, le Henri V arrive en première ligne avant la bataille et regarde cette armée française qui était entre deux forêts et qui était absolument énorme. Il dit bon, le coup n'est pas jouable. Et il envoie un émissaire, ce qu'on appelait à l'époque un héros d'armes, proposer aux Français de ne pas faire la bataille.
Laissez-nous passer.
On vous rend Harfleur qu'on vient de vous prendre, on vous rend même Calais, mais juste vous nous laissez traverser ce putain de champ. Et les Français, mais pas du tout, mais c'est mal connaître la chevalerie française.
Et voilà. 15 morts seulement côté anglais, a écrit Shakespeare.
Oui, mais non, là il exagère, mais Shakespeare était un fou. dingue d'Henri V. Non, il y a eu 600 morts du côté anglais, mais 10 000 du côté français. Et Henri V, après la bataille, a ordonné que tous les visages de nobles qui avaient été tués soient défoncés à coups de maillet, qu'on leur retire les chevalières où il y avait leurs écussons et tout, afin que plus personne puisse les reconnaître. Et ils ont fini, toute la chevalerie et toute la noblesse française a fini dans trois fosses communes le long du champ d'Azincourt.
Historiquement, la défaite d'Azincourt, 1415, hein, je le rappelle, c'est aussi la fin d'un monde.
Ah oui, complètement. Tout a basculé. Ça a été la fin des grosses armures et tout, parce que ça aussi, ça a été un problème. Les Français avaient choisi l'emplacement pour la bataille qui était en bas d'un champ qui venait d'être cultivé et labouré avec des sillons qui allaient dans le sens de la longueur. Et comme il pleuvait à torrents et tout, toute la pluie qui était sur le plateau, là où il y avait les Anglais, ruisselait vers les Français. Et au moment de la bataille, les Français sont aperçus qu'ils étaient enfoncés dans la boue à mi-jambe. Donc impossible d'avancer. Ils ont même pas pu sortir leurs épées des fourreaux tellement ils étaient tassés les uns contre les autres. C'est un festival de conneries.
Cette victoire des Anglais, 600 ans après, les Britanniques en rigolent encore.
Mais oui, alors qu'à l'école, nous, en France, les profs d'histoire peuvent pas faire autrement que de parler d'Azincourt à propos de la guerre de 100 ans. Mais ils en font une phrase et demie. Alors qu'en Angleterre, j'ai un copain, Boris Berman, qui me racontait que le cours durait une heure et puis que c'était c'était à la gloire des Anglais. Les Anglais qui sont marrants, parce que là, on vient d'apprendre qu'ils sont en train de construire un sous-marin nucléaire qu'ils vont appeler comment ?
Azincourt.
Quand même, quel foutage de gueule.
Une défaite à cause de trop d'orgueil, c'est valable aujourd'hui encore quand vous regardez la politique en France?
Bien sûr, là en ce moment, que ça soit à droite ou à gauche, tous les petits barons, les petits comtes, les petits ducs de politique veulent tous être sur la photo, chacun en première ligne, et ils sont en train de refaire ce qui s'est passé à Azincourt, et ils vont se prendre le mur comme à Azincourt. On n'apprend rien de l'histoire, c'est vraiment incroyable.
Votre père était communiste, je crois.
Ouais.
Est-ce qu'il vous a transmis un même engagement, une façon de concevoir la société?
Moi, quand j'étais enfant et que je voyais les copains de mon père et tout, et ces ouvriers communistes, mais je trouvais ces gens formidables, j'ai trouvé beau. Je comprenais même pas qu'on puisse ne pas être communiste. Et mon père, moi, je me souviens, chez nous, il y avait un portrait de Staline. Et un jour, mon père a appris ce que c'était en fait Staline, et là il a quitté le Parti communiste.
Vous êtes bédéiste ancien ou toujours bédéiste? On l'est à vie bédéiste. C'est vous qui rédigez, enfin qui dessinez toujours les unes de couverture?
En tout cas, je les décide, ouais, avec un dessinateur, et moi, avant de commencer un livre, j'ai besoin d'avoir le titre et d'avoir la couverture.
Ouais. Alors jetez-vous sur le dernier Jean Telet. Je rappelle le titre de votre livre, Azincourt, partant de pluie. C'est paru aux éditions Mialet Barreau. Merci d'être venu en parler
ce
matin.
Merci à vous, Eric.
Sur France Inter. Dans 20 secondes, le journal de 8h.